RCF.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Grand Angle. Quand on utilise le mot prêtre aujourd'hui, cela renvoie spontanément au prêtre de l'Église catholique. Mais la figure du prêtre, bien avant la figure de Jésus, eh bien, il y avait des prêtres à l'Antiquité, hein, dans les religions polythéistes, en Égypte, en Mésopotamie, par exemple. Eh bien, que dire encore aussi du prêtre qui est cité 600 fois dans l'Ancien Testament? Comment évolue la figure du prêtre à partir des premières communautés chrétiennes? On en parle dans Grand Angle aujourd'hui avec mes invités. Alors, Étienne Grieux, bonjour. Vous êtes prêtre jésuite, vous êtes théologien. On va parler avec vous forcément de cette figure du prêtre. Alors peut-être aussi comment elle évolue aujourd'hui. Avec nous aussi David Amidovitch, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien spécialisé en histoire de l'Antiquité. Donc on va revenir un petit peu aux sources du prêtre polythéiste et essayer de comprendre un petit peu tout ça. Et puis Benoît de Sagazan, bonjour.
Bonjour Faustine, bonjour à tous.
Vous êtes rédacteur en chef de la revue du Monde de la Bible, donc qui sort un beau dossier qui s'appelle « Le prêtre des polythéismes au christianisme ». Et donc voilà, on va développer le sujet à partir de ce beau dossier. Le prêtre, eh bien, du polythéisme, des polythéismes même, au christianisme, c'est notre thème du jour dans Grand Angle.
Grand Angle, proposé par Faustine Fayette.
Alors la figure du prêtre, un beau sujet de dossier. Alors intéressant parce que traité dans le monde de la Bible, on retourne aux sources. Je me tourne vers Benoît de Sagazan, donc le rédacteur en chef. C'est un sujet à la fois d'actualité et en même temps vous nous permettez de recreuser différemment. Comment ça vous a interpellé? Comment est venue l'idée en fait?
L'idée est simple. C'est vrai que une des fonctions pour moi de sociale de l'histoire, c'est de nous permettre de nous saisir des thèmes qui nous habitent aujourd'hui, de savoir comment les anciens les ont traversés, les ont vécus. Non pas que l'histoire resserve forcément les mêmes plats, mais elle nous permet de savoir dans la permanence finalement de notre épaisseur humaine comment ces histoires ont été soit élaborées, soit se sont construites, soit ont été réglées par ceux qui nous ont précédés. Et donc le thème du prêtre, c'est une question d'actualité, vous l'avez dit vous-même, on parle beaucoup du prêtre en ce moment. Au moment où on avait beaucoup discuté, il y a eu des actualités judiciaires, mais il n'y a pas eu que des histoires. Il y a aussi toutes les questions que portent les communautés chrétiennes, notamment autour de la figure du prêtre. On parlait beaucoup à l'époque du synode de l'Amazonie, quand nous avons réfléchi à ce dossier, et on parlait éventuellement d'ordonner des viri probati, notamment donc des hommes mariés, peut-être des appelés au sacerdoce. Est-ce que c'était une voie nouvelle que l'Église d'Occident pouvait interpeller? Et puis cette question, elle fait suite aussi à tous les dossiers que nous avons traités dans le passé sur sur le christianisme oriental, qui ont d'autres choix, ont une pluralité d'états de vie dans le sacerdoce, et savoir pourquoi maintenait-il cette possibilité d'avoir recours à des prêtres mariés, des prêtres célibataires, et pourquoi et comment.
C'est vraiment une façon de relire et de recomprendre, on va dire.
De recomprendre, d'avoir comment s'est construite d'abord dans le christianisme cette figure sacerdotale, quelles pouvaient en être aussi les racines et les comparer à ce qu'était un prêtre dans l'Antiquité, aussi bien dans les religions polythéistes que dans le judaïsme ancien.
Alors, je me tourne vers Étienne Grieux, qui est prêtre, justement. Comment comprenez-vous peut-être cette fascination, on va dire, pour la figure du prêtre et en même temps un dénigrement? C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien, parfois, il est porté au nu, en même temps, il est très dénigré. C'est étonnant d'avoir les deux constamment, en fait.
Peut-être que la figure du prêtre fait résonner en nous des fibres profondes. Très profondes, qui sont sans doute présentes dans toute l'humanité, quelque chose comme un homme du sacré. Voilà, et ça, je crois que d'une manière ou d'une autre, on y résonne. Alors je pense que la foi chrétienne invite à un gros déplacement par rapport à cette manière de voir. Mais disons, il y a quelque chose de fascinant, en tout cas dans cet homme qui est à part, qui a un rapport à Dieu que les autres n'ont pas. Des choses comme ça. Alors, voilà, ça expliquerait le côté un peu fascinant. Et puis, quand il y a un côté fascinant, en même temps, ça s'accompagne souvent d'une mise en cause assez radicale aussi. Voilà, donc ça serait une manière de rendre compte de ce dont vous venez de parler. Voilà.
Alors, cet homme de Dieu peut-être à part, eh bien, on va essayer de retrouver un peu les sources, parce que d'abord, le sacré, finalement, c'est l'origine de l'humanité, hein, il y a toujours eu du sacré, mais par contre, des prêtres, on a des traces, donc dès l'Antiquité. Alors, je me tourne vers David Hamidovic, qui est donc notre historien du jour. David, le prêtre antique, dans les religions polythéistes, alors on le retrouve en Égypte, c'est vrai qu'on pense pas forcément spontanément, mais voilà, en Mésopotamie aussi. Quel est son rôle? Est-ce que c'est une caste à part? Comment on pourrait le définir?
Oui, alors ce que vous dites est juste, mais peut-être on peut aller encore plus loin, c'est-à-dire peut-être dès la préhistoire, il y a cette question de la médiation finalement entre les dieux et les hommes, puisque c'est ça la question centrale. Mmh. Et la figure du prêtre, elle est quelque part aussi héritière un petit peu de ce qu'on appelle les chamans, même si le mot... puisqu'il en existe encore aujourd'hui, est un peu un mot valise. Mais l'homme, probablement depuis qu'il est homme, a cherché finalement à avoir une explication du monde et à rentrer en communication avec peut-être une réalité qu'il soupçonnait comme le dépassant. Donc on a dès les premières, même sur les grottes d'ailleurs, on a, y compris dans la grotte de Lascaux, on a des représentations probablement d'un chaman tout au fond de la grotte. On a, d'un point de vue archéologique aussi, dans ce qu'on appelle finalement, quelles sont les preuves de la naissance d'un sentiment religieux. Dès le départ, en fait, dans les sépultures, on voit bien qu'il y a probablement des rites qui sont perpétrés autour de ces sépultures, et ce depuis la préhistoire. Et donc ce qu'on appelle les religions polythéistes, que ce soit en Égypte, en Mésopotamie, l'Irak actuel, et aussi dans l'Israël ancien, finalement sont un petit peu héritières de cette quête de sens, puisque c'est ça dont il s'agit, hein. C'est donner du sens finalement au monde dans lequel on le vit, dans la communauté humaine dans laquelle on s'inscrit. Et donc on voit probablement la figure du prêtre émerger dans ce contexte-là.
Parce que en fait, finalement, très vite, il y a un sens religieux, sacré, on va dire intérieur, personnel, mais très vite ça prend presque... Il y a un rôle social, il y a des rituels qui se mettent en place.
Alors il faut qu'on s'entende sur ce qu'on appelle sacré, hein, parce que justement, il y a dans la revue, le dernier numéro, donc il y a un article de Benoît de Sagazan, qui est trop modeste puisqu'il ne l'a pas dit, mais qui explique comment se met en place un petit peu tout la conception qu'on a du prêtre actuel, y compris notamment sa sacralité. Le mot sacré, en fait, ne va pas de soi tout de suite. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, notamment en Égypte, en Mésopotamie, le prêtre, c'est avant tout un fonctionnaire. C'est le fonctionnaire d'un temple qui a été érigé parce que ce temple était, pour diverses raisons, le lieu où était présent la statue, qui n'est pas que la représentation du dieu, mais qui est aussi, en même temps, la présence sur terre de ce dieu. C'est-à-dire ce qu'on appelle... il n'y a pas de mot en français, mais ce qu'on appelle agency en anglais, c'est-à-dire c'est à la fois le pouvoir du dieu sur terre, c'est-à-dire le culte autour des statues est lié à ça. Et donc le prêtre offre des sacrifices, des offrandes, soit lui-même, soit il est la personne intermédiaire pour le peuple pour le faire, dans ce cadre-là, c'est-à-dire il veut rentrer en communication avec les dieux. Et donc l'image classique qu'on a, je dirais, c'est... le bétail qu'on fait cuire, et puis vous avez une petite fumée qui s'échappe. D'ailleurs, dans l'Antiquité grecque, on va codifier cette fumée, qu'est-ce qu'il faut mettre pour que ça fume bien, pour finalement rejoindre les cieux. Et donc c'est la matérialité finalement de ce lien entre les cieux et la terre. Et finalement, le prêtre, lorsqu'il répand de l'encens, il ne fait, d'un point de vue anthropologique, que reprendre finalement ce symbole, évidemment avec une signification qui est probablement différente. Mais vous avez ces symboles qui montrent justement aux hommes et aux femmes un petit peu le lien que le prêtre établit entre les cieux et la terre, donc entre les dieux et les hommes.
Et alors, le prêtre fait ses rituels, ses sacrifices pour lui-même ou pour au nom d'une communauté?
Alors là, j'espère que je ne vais pas choquer en disant les deux. C'est-à-dire, dans l'Antiquité, le prêtre, comme c'est un fonctionnaire, il faut bien qu'il vive. Mmh. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit... Alors, on a beaucoup de documentation sur le monde grec et sur le monde romain. le prêtre, en fait, à un moment donné, va codifier quel type de viande lui revient. Alors, c'est à chaque fois les bons morceaux. Donc, bon. Et puis, à un moment donné, on a des cas, notamment dans la religion romaine, où le prêtre va changer le règlement des sacrifices. Et puis, il va changer les animaux. Alors, il va passer, par exemple, du porc au bœuf. Oui, parce qu'il en a peut-être marre de manger trop de porc, parce que c'est l'animal un peu commun. Et puis, il passe au bœuf, qui est quand même un animal avec une viande plus goûteuse. Donc, vous avez un aspect assez pragmatique, pratique. Et puis, de l'autre côté, effectivement, vous avez derrière le rite qui est fait, notamment autour des animaux, mais aussi autour des offrandes, vous avez un lien qui est fait avec la nature. C'est-à-dire, si le ou les dieux ont créé la nature, à un moment donné, le prêtre va aussi entrer en communication par la nature avec les dieux. Donc, il va offrir, par exemple, ce qu'on appelle dans la Bible les prémices, c'est-à-dire les premiers fruits pour montrer cette reconnaissance du monde que Dieu a créé pour nourrir l'homme.
Alors, le prêtre, hormis voilà, ses sacrifices, au fur et à mesure, est-ce que ça devient un peu, justement, une catégorie à part ? On voit aussi, quand même, très vite, que les prêtres se rapprochent du pouvoir royal. Et on va voir dans les siècles plus tard, quand même, qu'il y a un rôle assez rapidement qui devient politique, presque.
Oui. Tout simplement parce que l'institution du roi, l'institution royale, va très rapidement viser, que ce soit en Égypte, en Mésopotamie ou dans l'Israël ancien, à peu près la même fonction de médiation entre le Dieu et les hommes. Donc elle apparaît pas au même moment, elle apparaît beaucoup plus tardivement. Tout à l'heure je parlais de la préhistoire, finalement pour l'origine quelque part des prêtres. La fonction royale, la fonction de chef, même depuis la préhistoire, on n'a pas de documentation qui nous permet d'affirmer qu'il y a une velléité, une volonté finalement d'établir un lien entre les dieux et les hommes à travers la figure du roi. Disons que la fonction royale va probablement se situer dans un contexte qu'il faut aussi, comme je suis historien, le dire, qui est un contexte de pouvoir, qui est un contexte de hiérarchie et de prise en main, je dirais, d'une communauté, où vous allez avoir, là, cette fois-ci, pas du tout l'histoire divine, mais l'histoire humaine qui se met en place, c'est-à-dire que vous allez avoir des personnes qui vont prétendre diriger d'autres personnes. Et l'argument massue, si je puis dire, c'est prétendre avoir reçu une légitimité de Dieu. Donc le prêtre va, certains prêtres à certaines époques, dans certaines régions, vont avoir cette prétention-là, en disant « mais vous voyez, nous on communique avec le divin ». D'ailleurs dans l'Israël ancien, après le VIe siècle avant notre ère, lorsqu'il n'y a plus de roi, bah, comme par hasard c'est le grand prêtre qui endosse finalement cette fonction politique. Et puis vous avez également le roi qui, lorsqu'il coexiste avec les prêtres, va souvent être en conflit avec les différents temples. Les temples vont souvent être des lieux de contre-pouvoir, par exemple en Égypte.
Et alors, il y a aussi plusieurs catégories, on va dire, de prêtres, mais même aussi ceux qui ne sont peut-être pas des prêtres. On entend souvent parler un peu des astrologues, mais les astrologues antiques, j'entends bien, des devins, des guérisseurs. Est-ce que tout ça s'est mis un peu sous le même vocable prêtre, ou est-ce qu'il y a vraiment des catégories très précises ?
Alors probablement qu'il y a des catégories très précises, c'est-à-dire il y a une sorte de prêtres spécialisés dans l'Antiquité, avec des prêtres plus prestigieux que d'autres, parce qu'ils appartiennent à des familles plus prestigieuses. Donc là, il y a aussi une histoire de la prêtrise dans chaque région. Ce qu'on peut dire, en fait, c'est que cette spécialisation, elle rencontre finalement ce que j'évoquais tout à l'heure, les grandes questions de l'humanité qui se posent dans toutes les civilisations, hein, sans exception. D'où on vient, pourquoi est-ce qu'il y a la mort, etc. Eh bien, vous avez ces fonctionnaires de Dieu vont chercher des réponses et qui vont essayer de mettre en place des rites, notamment pour avoir accès à ces réponses. Alors, vous avez parlé d'astrologie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à lire la course des étoiles. Par exemple, dans l'Israël ancien, aujourd'hui, les dernières recherches montrent que l'astrologie, en fait, se passe dans le temple de Jérusalem et que ce sont les prêtres qui sont les plus prestigieux, ceux qui ont le plus de connaissances, qui ont cette capacité-là. C'est-à-dire une sorte de connaissance ultime à avoir accès au message de Dieu. C'est-à-dire on ne cherche plus à rentrer en communication. Là, on cherche à lire le message de Dieu dans, finalement, les astres. Donc, on voit bien apparaître, alors on a à peu près la même chose en Mésopotamie, notamment, on voit bien apparaître, si vous voulez, des spécialisations qui montrent que derrière le terme de prêtre, qui est vous l'avez dit en introduction, qui est un terme occidental. Dans l'Antiquité, vous avez toute une mosaïque de spécialités, de spécialisations. Et à l'intérieur de ces communautés de prêtres, il y a aussi, il faut le dire, des conflits. Et la Bible hébraïque ou Ancien Testament porte la marque de ces conflits.
Et les femmes ? Alors, les femmes, est-ce qu'il y en avait, parce que, puisque c'est une question aussi d'actualité, est-ce que dès l'Antiquité, voilà, il y avait des femmes prêtresses? C'est vrai que parfois on peut entendre ça. Est-ce que c'est un peu surreprésenté dans notre imaginaire?
Alors, je ne sais pas si c'est surreprésenté dans notre imaginaire, mais en tout cas, on voit bien que très majoritairement, ce sont des hommes. Après, il existe des sortes de collèges de prêtres ou prêtresses, à peu près dans toutes les religions antiques. Faut pas oublier aussi que il y a différentes fonctions, je dirais, qui sont liées plutôt aux femmes dans l'Antiquité. Faut pas oublier, par exemple, quand on a en tête la mythologie grecque ou romaine, vous avez des déesses et souvent les femmes en tant que prêtresses étaient associées aux déesses et les hommes étaient associés finalement aux dieux masculins. Donc il y avait un petit peu une vision un peu sexuée ou genrée, comme on dirait aujourd'hui, de la chose. Et donc c'est ce qui expliquerait par exemple que dans l'Israël ancien, vous n'ayez pas de prêtresse. Alors vous pouvez discuter quelques noms à différents endroits pour savoir exactement quelles étaient les fonctions, mais il n'y a pas véritablement de prêtresse en tant que telle. En revanche, dans les religions polythéistes, effectivement, notamment grecques et romaines, là, il y a des prêtresses qui sont documentées, mais on voit bien que c'est très localisé, si je puis dire.
Alors, on va voir dans quelques instants, justement, comment on est passé l'évolution des prêtres dans ces sociétés, dans ces cultures polythéistes. Même, ça a vécu en concomitance avec le développement donc du ce qu'on peut appeler donc le judaïsme ancien. Et puis peut-être, ensuite, comment quelle a été la figure du prêtre, peut-être qu'a connu Jésus. On va avancer là-dedans. On avance dans cette figure du prêtre au fil des siècles. On se retrouve tout de suite sur RCF. C'est une œuvre célèbre de Gabriel Fauré et c'est interprété par The Priest. Et justement, on parle de la figure du prêtre aujourd'hui dans Grand Angle.
Grand Angle, Faustine Fayette.
Alors avec moi pour en parler aujourd'hui, le père Étienne Grieux, prêtre jésuite, David Hamidovic, donc historien spécialisé en histoire de l'Antiquité, et puis Benoît de Sagazan, rédacteur en chef du Monde de la Bible, qui traite dans son dossier de ce mois-ci la figure du prêtre des polythéismes au christianisme. Alors on vient d'évoquer un petit peu voilà, les prêtres dans les religions polythéistes à l'Antiquité. Je voudrais qu'on arrive maintenant un petit peu au judaïsme ancien. Justement, quand se développe le judaïsme, avec quoi quel est leur héritage et quelle est la fonction du prêtre dans ce judaïsme ancien? Qu'est-ce qui change?
Alors, la fonction du prêtre, finalement, elle est pas si différente de ce qu'on trouve en Mésopotamie, en Égypte. C'est-à-dire, il y a toujours des rites sacrificiels. Après, il y a quelques spécificités, notamment c'est l'affirmation du monothéisme. Alors, on peut discuter si le monothéisme se met en place tout de suite ou pas. Il se met probablement très progressivement en place. Vous avez une sorte d'OPA qui a lieu par le temple de Jérusalem en disant, à partir probablement du 7e siècle avant notre ère, que tout le culte au Dieu d'Israël doit avoir lieu au temple d'Israël. Donc c'est ce qu'on appelle la réforme de Josias ou quelquefois d'Ézéchias. Toujours est-il qu'en fait, le prêtre qui apparaît dans le cadre du temple de Jérusalem, là aussi, c'est un fonctionnaire, très clairement. C'est-à-dire que sa mission, principalement, c'est de sacrifier. D'ailleurs, je le dis dans l'article, on traduisait dans les Bibles anciennes en français, non pas prêtre, mais sacrificateur. Mmh. Et le terme en hébreu Kohen correspond, à mon avis, au départ à cela. Et puis, ça correspond à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que plus on avance dans le temps, plus vous avez d'autres fonctions qui vont rejoindre cette fonction de sacrificateur. Derrière le mot prêtre, vous avez un mot valise qui désigne beaucoup de choses, puisque vous avez à un moment donné, pour des raisons tout à fait démographiques, dans les derniers siècles avant notre ère, il y a trop de prêtres pour servir au temple de Jérusalem.
Oui, c'est-à-dire, ça change.
Voilà, et donc on vous dit qu'il y a 24 familles qui servent au temple de Jérusalem dans le premier livre des Chroniques, mais dans la réalité qu'on peut voir dans l'archéologie, puisqu'on localise aujourd'hui à Jérusalem à peu près le quartier des prêtres au sud du temple, on voit bien que c'est les prêtres, et c'est pas surprenant, ont beaucoup d'enfants, et qu'à un moment donné, vous avez un problème tout simplement quantitatif. Tous les prêtres ne peuvent pas servir au temple de Jérusalem.
Alors, il y a deux grandes familles. Enfin, familles, je ne sais pas comment on peut... Deux grandes catégories. Vous parlez dans votre article des fils d'Aaron et des Lévites.
Oui, alors c'est pas moi qui invente ces familles, en fait, elles sont dans la Bible hébraïque. Oui, et on a discuté, en fait, depuis quasiment 2000 ans pour savoir ce que ça voulait dire. Parce que dans certains passages, vous avez l'impression qu'il y a une équation simple, c'est que le prêtre est un lévite. Et dans d'autres passages de la Bible, vous avez l'impression que le lévite est un subalterne par rapport au prêtre. Alors, j'ai pas la réponse
comment
absolue.
Comment s'y retrouve ?
Ben justement, ça a été la grande question pendant 2000 ans et j'ai pas la réponse, hein, je le dis tout de suite. Aujourd'hui, on devine d'abord, d'une part, que la Bible hébraïque ou Ancien Testament n'est pas un livre d'histoire, c'est pas l'histoire du sacerdoce qui est faite. Donc, autrement dit, il y a d'autres raisons qui sont des raisons théologiques, hein, évidemment. Donc, on peut voir en filigrane un petit peu cette histoire. Et ce qu'on devine, c'est que probablement, à partir du 6e siècle avant notre ère, il y a une sorte de consensus entre les prêtres qui sont partis en déportation dans la région de Babylone, c'est-à-dire les trois quarts des prêtres, et puis les prêtres qui sont restés au temple de Jérusalem ou dans la région de Jérusalem, avec, au moment où les prêtres déportés reviennent, fin du 6e siècle et au 5e siècle, eh bien, il y a une sorte de conflit à l'intérieur du clergé, c'est-à-dire ceux qui étaient restés disent « mais c'est nous qui sommes légitimes, parce qu'on a assuré la pérennité du culte », et puis les autres disent « mais nous, en Babylonie, on a continué aussi à assurer la pérennité du culte, peut-être d'une autre manière ». Donc, la dénomination fils d'Aaron, elle est probablement liée à la recherche d'un ancêtre le plus ancien possible pour que toutes les familles sacerdotales s'y retrouvent. Et évidemment, c'est le compagnon de Moïse, Aaron, qui a été choisi. Donc, c'est pour ça qu'on a la dénomination prêtre fils d'Aaron. Et puis, il existe une catégorie de lévites parce qu'il y a un autre... ancêtre qui est très connu, c'est Lévi, dans la répartition des 12 tribus d'Israël, puisque Lévi n'a pas eu de terre. Dieu, dans la Bible, lui a donné en héritage le sacerdoce. Donc vous avez des légitimations, tout à l'heure, on parlait d'aspects tout à fait humains, probablement c'est ça hein, derrière, avec ceux qu'on appelle les Lévites. Alors, ces Lévites-là, lorsqu'on dit qu'ils sont les successeurs du patriarche Lévi, hein, probablement en français, on devrait mettre une majuscule. Donc là, ils sont probablement l'équivalent des fils d'Aaron, mais à un moment donné, on ne sait pas très bien pourquoi, il y a la désignation de Lévite avec un L minuscule, c'est-à-dire que ça devient une sorte de sous-fonctionnaire. Notamment, il y a des passages dans la Bible où on a l'impression que ce sont les chantres, en fait, au temple. On voit bien qu'il y a toute une série de catégories, que le terme Lévite devient, probablement pour les fils d'Aaron à une époque, un petit peu la désignation d'une catégorie secondaire.
Alors, d'autres noms qu'on entend, d'ailleurs, qu'on peut entendre quand on lit la Bible soi-même, dans l'Ancien Testament, qu'on entend à la messe, qu'on peut entendre au culte, il y a Melchisédek. Oui. Un nom, voilà, mais on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. C'est la figure d'un prêtre, mais voilà. Vous évoquez aussi, il y a aussi Simon le Juste, alors peut-être beaucoup moins connu.
Voilà. Alors, si, il est très connu, lui, par contre.
Alors, peut-être alors, on le lit moins à la messe. Alors.
Oui, alors Melchisédek, bon, c'est en Genèse 14. Melchisédek, c'est le prêtre qui n'a aucune origine, prêtre et roi de Jérusalem. Alors il apparaît comme ça, comme un cheveu sur la soupe dans la Bible, et probablement que c'est fait exprès. Il y en a un deuxième qui est le prêtre des rois David et Salomon, Sadoc, d'ailleurs qui va donner à un moment donné la désignation fils de Sadoc pour les prêtres. Alors probablement c'est tout à fait volontaire, c'est de créer un homme neuf pour légitimer des idées neuves sur le sacerdoce. Et donc à un moment donné, ça devient intéressant de se réclamer, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec ce que fait le clergé au temple de Jérusalem, de se réclamer d'un autre ancêtre prestigieux. Et donc, il est probable qu'il y ait des milieux rédacteurs de la Bible, dont on ne sait pas très bien qui c'est, mais probablement à l'intérieur du temple de Jérusalem, qui vont légitimer de nouvelles idées avec des nouvelles figures. Alors, c'est pas propre au judaïsme. Hein. Vous avez quasiment toutes les religions qui vont faire pareil, qui vont se rechercher une sorte de figure tutélaire, idoine, à un moment donné. J'ai presque envie de dire, parce que j'ai des exemples qui me viennent en tête jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est pas un phénomène nouveau, oui. Si vous voulez, de légitimation de nouvelles idées. Donc, Melchisédek, on ne sait rien de lui volontairement, parce que il est quand même prêtre et roi de Jérusalem, donc c'est quand même très prestigieux. Il n'y a aucune généalogie qui est donnée, tout simplement parce que ceux qui revendiquent une filiation ou un intérêt avec Jérusalem, c'est l'histoire avec Abraham, servent à dire que les idées qui sont mises là sont des idées nouvelles et qui sont très importantes, voire aussi importantes que celles qui préexistaient. Voilà, il y a la figure de Sadoc, qui est à peu près la même histoire, mais peut-être un peu plus tardivement, puisque longtemps on va penser que tous les grands prêtres devaient être de la lignée de Sadoc. Aujourd'hui, en histoire, on doute un petit peu de cela, mais toujours est-il que ça veut dire que ça permet de légitimer dans les familles dirigeantes du temple de Jérusalem leur pouvoir de génération en génération. À la fonction de grand prêtre. Alors on imagine que les prêtres qui sont en dessous n'étaient pas forcément très d'accord, d'où des textes qui quelquefois sont assez acerbes vis-à-vis des fils de Sadoc. Vous parlez de Simon le Juste. Alors Simon le Juste, c'est une toute autre histoire, parce que lui, il est très connu, je dirais, d'un point de vue historique. Il est très daté dans les derniers siècles de notre ère, à tel point que ça va devenir, au contraire, une sorte de modèle dans le judaïsme même médiéval, le judaïsme rabbinique et puis le christianisme, le modèle du grand prêtre juste. C'est pour ça qu'il hérite du titre de Simon le Juste. Et donc, vous avez encore dans le judaïsme et le rabbinisme ce grand prêtre qui est cité comme un modèle de piété. Donc ça fait partie des figures de piété qui sont données. Alors, est-ce qu'il était pieux ou pas, ça, on n'en sait rien, évidemment, puisque les textes ne sont pas, je l'ai dit tout à l'heure, des sortes d'annales historiques. Mais on l'oppose souvent à des figures de grands prêtres qui sont, à proprement parler, insultés hein, dans la Bible. C'est des grands prêtres qui sont à la solde des souverains étrangers, que ce soit des Égyptiens, des Grecs ou des Romains. Parce que eux, ils ont acheté auprès du pouvoir leur charge, parce qu'il ne faut pas oublier que le temple de Jérusalem, c'est un lieu de sacrifice, mais ça devient très rapidement la banque.
Ah oui.
C'est-à-dire que c'est le lieu où on encaisse toutes les dîmes, tous les impôts.
D'où la colère de Jésus, un passage...
Exactement, voilà. Les marchands du temple, etc.
Fameux passage de la Bible.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans les derniers siècles avant notre ère, le temple de Jérusalem est probablement perçu par les contemporains comme avant tout la banque, si je puis dire, d'Israël. À tel point que, par exemple, on a un personnage qui s'appelle Jonathan Maccabée, en 152 avant notre ère, qui va se faire reconnaître grand prêtre pas parce qu'il a des prétentions théologiques hautes, mais parce qu'il veut continuer le combat contre ce qu'on appelle les Séleucides, et il a besoin d'argent. Donc il engage des mercenaires, il paye sa troupe avec le trésor du temple de Jérusalem. Et il est accusé d'avoir fait fondre les ustensiles, justement. Et donc évidemment, vous avez plein de milieux pieux qui ne sont pas d'accord. Donc, si vous voulez, il y a une histoire économique, et on voit bien, tout à l'heure on parlait du prêtre comme personnage sacré, mais ça rencontre intimement des réalités économiques.
Alors, là-dessus arrive Jésus, on va dire. Jésus, à plusieurs moments, hein, dans les évangiles, on parle des prêtres, il renvoie aux prêtres, ou alors même, voilà, il y a des tensions. Je me tourne peut-être vers le père Étienne Grieux. Quand Jésus, voilà, tout ce qu'on voit de son ministère public, on va dire, est-ce qu'il défend une vision du prêtre? Est-ce qu'il défend une figure du prêtre? Contre quoi il se soulève quand, voilà, il y a la colère alors des marchands du temple, mais on voit bien que c'est plus que ça. Qu'est-ce qui révolutionne, en fait, avec Jésus?
Ouais. Peut-être, avant de passer à Jésus, ça serait peut-être bien d'apporter un tout petit élément complémentaire sur le fonctionnement du religieux avant Jésus, qui n'a pas que la figure du prêtre. Il y a aussi d'autres figures très importantes dans le judaïsme, notamment la figure du prophète, et puis toutes les figures des commentateurs de la loi. Mmh. Hein. Et donc, ça, je pense que ça attire l'attention sur quelque chose de spécifique, il me semble, au judaïsme. C'est que le Dieu auquel on croit est un Dieu qui parle et qui s'adresse à tout le monde, pas seulement et pas de manière énigmatique, mais de manière claire, en énonçant, disons, une loi que tout le monde peut reprendre à son compte. Et il parle aussi par des porte-paroles qui sont pas forcément du monde des prêtres, et qui peuvent des fois contester, aussi avoir une position critique par rapport au pouvoir. Voilà. Donc il y a tout cet ensemble-là, disons. Quand on pense à la manière dont se déploie la relation entre le peuple et Dieu, il y a tout ça qui est en jeu. Et Jésus, il arrive au milieu de tout ça. Et disons, on peut dire, lui, il va reprendre beaucoup une figure prophétique. Souvent, disons, on rapproche la figure de Jésus de celle de Élie, par exemple. Et puis, on connaît sa proximité avec Jean le Baptiste. Mmh. Donc, c'est au milieu de tous ces courants-là que lui prend position. Et finalement, disons, par rapport aux prêtres, on voit relativement peu de choses. Enfin, la plupart du ministère de Jésus s'exerce en dehors de Jérusalem, donc c'est pas là où il y a le temple et les prêtres. Et quand il arrive à Jérusalem, c'est d'abord, enfin, il pose ce geste très provocateur, très critique par rapport à tout le business qui se fait autour du temple, quoi. Comme pour indiquer que, y a un autre type de rapport à Dieu que celui-là. Voilà.
Alors, du coup, quand il institue, par exemple, Pierre, voilà, qui va être sur laquelle va se bâtir l'Église. Alors, est-ce qu'on sait ce qu'il y a dans la tête de Jésus? Est-ce qu'il veut, voilà, est-ce qu'il y a déjà une idée d'une nouvelle forme de prêtrise? Je sais pas. C'est difficile à décrypter, ouais. En fait, quand il dit tu seras sur cette pierre, voilà, l'Église va se faire. Ouais. Après, comment on passe à la vraie Église, en fait, enfin, l'Église des premiers siècles.
Ce qu'on peut dire, c'est que ce qui est sûr, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de Jésus. Heureusement, c'est pour ça qu'il y a quatre évangiles, ça nous interdit de nous fixer sur une représentation précise. Hein. Il y a tout un jeu. Hein. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que, en fait, la grande question qui était prise en charge par le phénomène des prêtres, elle est reprise en charge autrement dans la tradition chrétienne. C'est-à-dire, la grande question, c'est celle du rapport entre Dieu et l'humanité, comme on l'a vu dans toute la première partie. Hein. Et, disons, à travers le schème du sacré, on peut dire qu'on avait une manière de disposer les choses où il y a des lieux spécifiques, des fonctions spécifiques et des personnes spécifiques qui sont réservés pour le rapport à Dieu. Ce sont
tout
un peu
très codé.
Des techniciens du rapport à Dieu. Ça change profondément dans le christianisme. Parce que avec ce schéma-là, vous aviez des espaces sacrés, mais qui s'opposent aux espaces profanes, dans lesquels il n'est pas question de Dieu. Hein. Ça, déjà, c'est mis en cause déjà dans la tradition juive, parce que on voit Dieu qui accompagne son peuple, qui parle à son peuple d'une autre manière que simplement par les rites, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'était déjà mis en cause, mais ça sera encore amplifié par, disons, dans la tradition chrétienne. Et cela, moi, je dirais de deux manières. La première manière, c'est que la figure centrale pour les chrétiens est la figure d'un crucifié. Quand on était dans un schéma du sacré et du profane, ce schéma-là permettait de distinguer qu'est-ce qui est digne de paraître face à Dieu et qu'est-ce qui n'en est pas digne. Or, la figure du crucifié, qui est un homme humilié, qui est un homme rejeté, on pourrait dire c'est par excellence celui qui est indigne, indigne de Dieu et en plus indigne de l'humanité, puisqu'on va le mettre à mort, il est condamné à mort. Voilà. Or, c'est lui, dans la tradition chrétienne, qui va être pris comme celui qui, justement, nous ouvre le chemin vers Dieu. Voilà. Et puis, la deuxième chose qui va bouger profondément, on peut dire, c'est tout ce qui se passe autour de l'Esprit-Saint, le don de l'Esprit-Saint qui est répandu sur tous les croyants. Et donc, c'est pas un petit groupe de spécialistes à qui ça arrive, mais ça arrive à tous les croyants. Voilà. Alors, il y a de quoi bousculer profondément les représentations. Dans les premiers siècles, il n'est pas du tout question, disons, on n'emploie pas du tout le vocabulaire du sacerdoce pour désigner des ministres du culte. Voilà. En revanche, dans l'Épître aux Hébreux, il y a une relecture de ce qui est arrivé au Christ, et notamment dans sa passion, à travers, disons, les grands schémas du sacerdoce. Voilà. Mais en même temps, c'est un schéma qui, on peut dire, qui subvertit le schéma traditionnel, qui le subvertit profondément. Hein, parce qu'il y a plus de, disons, c'est une fois pour toutes que le sacrifice a eu lieu. Et puis, on peut dire...
Et la notion de sacrifice, elle est bouleversée, en fait.
Oui, tout à fait. Ce qui reste du sacrifice, c'est quelque chose qui permet de rétablir la communion avec Dieu. Ce qui est profondément bouleversé, c'est que le sacrifice supposait une violence qui s'exerce contre la victime. Or là, la victime, c'est l'envoyé de Dieu, et pour les chrétiens, le Fils de Dieu lui-même qui l'a subi. Donc c'est Dieu lui-même qui prend ça sur lui, on peut dire.
Mais ça c'est très nouveau. Et alors je reviens sur ce que vous disiez sur l'Esprit-Saint. Finalement, par le baptême, on dit bien que les chrétiens deviennent prêtres, prophètes et rois. Donc là aussi, c'est quelque chose de nouveau, de très nouveau. Alors c'est peut-être un discours qui s'est développé au fil des siècles, mais ce qui veut dire qu'en fait on est passé c'est compliqué parce qu'on a toujours des prêtres. Mais en même temps, on est chacun prêtre, prophète et roi.
Disons, encore une fois, il faudra attendre le 3e siècle pour qu'on emploie le vocabulaire du sacerdoce
déjà après.
Pour désigner des ministres chrétiens. Mais c'est vrai qu'il y a des célébrations. Il y a des célébrations, par exemple la fraction du pain, le mémorial qu'a laissé le Christ. Ça, c'est quelque chose, on en a des signes très tôt, c'était célébré par les chrétiens. Voilà. Alors, sans que le président soit appelé un prêtre, hein, mais il exerçait quand même une fonction de ce type-là, disons.
Alors, Benoît de Sagazan.
Si je résume un peu, il me semble que la grande différence, c'est que la grande révolution christique, celle-là, c'est que Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes, et on ne passe plus par un prêtre pour avoir accès à Dieu, finalement. Voilà. Et c'est cette révolution-là c'est pour ça qu'il instaure des apôtres. Il ne parle pas de prêtres. D'ailleurs, quand il parle des prêtres,
oui,
il parle des prêtres
pas
juifs.
De prêtres.
Il n'institue pas un ordre en tant que tel. C'est au fur et à mesure. Ce qui va bouleverser, à mon avis, et nécessiter peut-être l'apparition de prêtres, c'est deux choses, il me semble. C'est que, un, déjà, à partir du 3e, surtout au 4e siècle, le christianisme devient une religion officielle, une religion d'État. Là, on a affaire non plus à des communautés restreintes, vivantes, mais à des communautés de masse, quoi. Il y a des conversations qui sont très très importantes. Ça va se traduire dans l'organisation des édifices aussi, mais aussi dans la communauté et l'organisation des communautés.
Oui, il va falloir faire face à une réalité nouvelle.
Et dans cette réalité nouvelle, il y a aussi une importance, c'est que la liturgie va prendre beaucoup d'importance dans la réunion Parce que je pense qu'il y a une fonction sociale aussi à cela. Je pense que toutes ces populations nouvelles, ces chrétiens nouveaux, ont besoin d'actes liturgiques, parce qu'ils viennent aussi d'un paganisme qui avait besoin de. Donc c'est eux qui réclament, peut-être aussi pour une partie d'entre eux, des actes ritualisés avec un président de séance. Ce qu'on connaît des premières communautés, c'est très compliqué, parce qu'on a l'impression qu'il y avait autant d'organisations, peut-être, de modèles d'organisation que de communautés chrétiennes. Il y avait parfois des présidences qui étaient organisées par des femmes, d'autres étaient des hommes. Parfois, c'était des rôles tournants. Peut-être que ceux qui présidaient les Eucharisties et les sacrements n'étaient peut-être pas toujours les mêmes. Il y a deux personnes dans lesquelles on est à peu près sûr qui se constituent assez vite, c'est l'évêque et le diacre.
Alors justement,
c'est les deux premiers qui apparaissent. Et après, on parle de presbytre, qui a donné le nom au prêtre. Mais le conseil des presbytres, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est un conseil de sages, c'est un conseil d'anciens.
Voilà. Alors on va revenir sur ce vocabulaire.
Le comité grandissant, l'évêque seul ne peut pas assurer tous les offices liturgiques, et notamment l'Eucharistie. Voilà. Donc il est obligé d'avoir des délégués ou des voilà, et c'est là que va s'organiser petit à petit, se fonctionnaliser un rôle de prolongation de l'évêque, et qui vont devenir finalement, qui va être sûrement choisi dans le conseil des presbytres, des anciens, et qui vont préfigurer le prêtre jusqu'à ce qu'il soit institutionnalisé et de plus en plus, plus on avance dans le siècle, plus normalisé.
Alors on a déjà fait un grand voyage en partant des prêtres polythéistes à l'Antiquité, et on arrive, c'est vrai, maintenant au 1er siècle et au Moyen-Âge.
Les premiers siècles sont encore l'Antiquité, l'Antiquité tardive.
On va aborder justement l'apparition des évêques, des diacres, des presbytres, tout de suite. Avant cela, on va écouter trois prêtres qui chantent. Ce sont les prêtres, et on écoute Spiritus Dei.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo.
Spiritus Dei, c'est une reprise de la Sarabande de Handel, et c'est interprété par les prêtres. Ce sont les trois prêtres du diocèse de Gap, et on parle aujourd'hui de la figure du prêtre, le prêtre des polythéismes au christianisme.
Grand angle, RCF.
Alors avec moi en plateau pour en parler aujourd'hui, pour parler du prêtre, eh bien un prêtre, le père Étienne Grieux, prêtre jésuite, également David Amidovic, donc qui est historien spécialisé en histoire de l'Antiquité, et Benoît de Sagazan, rédacteur en chef du Monde de la Bible, qui donc aborde ce thème du prêtre dans son dossier disponible en kiosque, voilà dans le numéro du mois. On évoquait à l'instant donc comment on passe hein, du prêtre du judaïsme ancien au prêtre, l'arrivée de Jésus qui bouleverse un peu les codes, et puis le développement au fur et à mesure, au fil des siècles, une évolution assez lente de la figure du prêtre. Alors Benoît de Sagazan, vous avez travaillé particulièrement ce sujet. Comment se constitue en fait peu à peu le clergé? Je veux dire qu'on a appris tout ça à l'école au Moyen-Âge, et puis aussi peut-être le cursus au fur et à mesure du prêtre. Alors on parlait des presbytres, des évêques, des diacres, voilà, tout ça, comment ça apparaît?
Mais, c'est une évolution qui est à la fois complexe et assez lente, et en même temps qui a été déterminée par des facteurs politiques et historiques majeurs. Tout d'abord, je crois qu'il y a deux périodes à distinguer, c'est avant le 4e siècle, après le 4e siècle. Avant le 4e siècle, on a des communautés donc disparates qui se construisent. On dit même que, selon les témoignages, qu'elles se construisent elles s'organisent plutôt sur le mode des charismes. C'est-à-dire que ont une fonction importante dans la communauté, ceux qui ont un rôle, ceux qui peuvent servir la communauté. Par exemple, il y a des fonctions qui sont très importantes, comme celle du lecteur, parce que tout le monde ne savait pas lire. Donc celui qui était lecteur dans une communauté était quelqu'un d'important, parce qu'il pouvait lire la parole de Dieu. Il y avait les docteurs, ceux qui étaient assez savants pour pouvoir enseigner. Voilà. Est-ce qu'ils étaient prêtres pour autant? Ça n'est pas dit. Ça pouvait être aussi simplement quelqu'un de très instruit dans la communauté. Il y avait des veuves qui occupaient elles aussi. Il y avait les vierges qui occupaient aussi d'autres rôles dans la communauté. Voilà. Il y avait un certain nombre de fonctions comme ça qui existaient, donc qui étaient plutôt liées au charisme des personnes. Et voilà. C'est donc souvent soit le président de la communauté, soit l'évêque, suivant le nom qu'il porte à l'époque, qui organisait cela autour de lui. Voilà. Donc, mais c'était des communautés souvent urbaines, donc plus ou moins nombreuses, qui se réunissaient plutôt dans des maisons domestiques. Voilà. Après, les communautés grandissent, notamment sans doute sous l'influence des martyrs, dit-on dans un premier temps, mais et ensuite parce que le christianisme avec Constantin jouit d'une tolérance de culte, donc il a une liberté de culte, donc il se manifeste. Il est encouragé aussi par l'empereur qui leur construit quand même des basiliques.
C'est de plus en plus public.
Ce qui est intéressant d'ailleurs dans la basilique, c'est qu'on choisit un bâtiment civil comme lieu de rassemblement, comme modèle d'un lieu de rassemblement pour le culte, et non pas une reprise du temple tel qu'il y en avait autour, ou même de la synagogue, par exemple, même si la synagogue n'est pas un lieu de culte en tant que tel. Mais voilà, on choisit un bâtiment civil pour lieu de rassembler de la communauté, même si très tôt, il semble que l'autel joue ce rôle de premier élément de sacralité. On y place assez vite aussi des reliques qui montrent un début de sacralité du lieu. Donc ces communautés s'organisent, et donc au 4e siècle, le christianisme change radicalement de visage, parce qu'il devient une religion officielle, et il a affaire à des territoires qui grandissent, et des populations aussi qui grandissent. Donc ils accueillent, donc il faut une organisation. Alors cette histoire se complète au fil des siècles, et d'abord on distingue des ordres. Dans la fonction liturgique, il y a ce qu'on appelle des ordres mineurs, des ordres majeurs, et avec l'augmentation d'une fonction de sacralité. Et cette fonction de sacralité montre notamment qu'on distingue finalement ceux qui peuvent approcher du cœur sacralisé, notamment par les reliques, et des objets qui servent à la liturgie, donc les objets sacrés. Donc on réemploie d'ailleurs, ce qui est amusant au fil de ces époques, des mots qui viennent soit du paganisme, soit du judaïsme. On parle de la fonction de hiéréus, notamment pour parler du prêtre. On emprunte des fonctions.
On voit qu'il y a bien des héritages variés.
Je pense qu'on se... C'était aussi une des grandes forces du christianisme, que de s'adapter aux cultures locales aussi, aux populations qu'elle recevait. On voit que le vocabulaire concernant le prêtre se précise, change, et fait, quitte à faire des emprunts aussi et des religions traditionnelles.
Alors après, comment arrive l'ordination, par exemple, On va ordonner à un moment donné vraiment quelqu'un qui devient prêtre.
Dès lors qu'on distingue qu'il y a des ordres majeurs, des fonctions majeures et des fonctions mineures, certaines seront ordonnées et d'autres seront juste nommées. Donc déjà, une fonction d'ordination, voilà. Et puis ça on va puiser dans l'Ancien Testament, j'imagine, pour l'ordination. L'ordination existe déjà dans le judaïsme et dans les fonctions du temple.
Alors, je voudrais, malheureusement, je vois que l'heure tourne, on va peut-être passer un peu vite.
Ces fonctions qui étaient séparées dans les ordres mineurs, vont devenir finalement des étapes, au fil des siècles, des étapes dans le cursus d'une sacerdotalisation. C'est-à-dire que les fonctions de portier, de lecteur, de docteur, de sous-diacre, de diacre vont être autant d'étapes dans la construction, dans le cursus de l'ordination de ce qui va devenir le prêtre, en fait. Donc il va les englober. Donc les charismes ne seront plus des fonctions de charisme comme c'était autrefois, mais des fonctions de ce qu'on appelle d'un cursus clérical, qui va se mettre en place progressivement.
Et alors, il y a un grand moment, on va en parler de manière assez courte, la réforme
grégorienne.
Voilà. Qu'est-ce qui change là?
Alors, il y a beaucoup de choses. On franchit des étapes assez longues, assez difficiles. Tout ce courant-là est traversé aussi par des tensions qui sont. La simonie, et l'autre, le nicolaïsme. La simonie, c'est fait. David Amiewicz en parlait très bien pour les fonctions du temple à Jérusalem. C'était pas la tentation, comme devenir prêtre est devenu une statue privilégiée. Il y avait un certain nombre de privilèges associés au sacerdoce et au service de l'Église. Donc, c'est des places qui vont être recherchées finalement. Et certains auront la tentation de vouloir acheter leur ordination pour pouvoir bénéficier.
Toujours les mêmes tentations.
Donc l'humanité, je pense, existe. Et tant qu'il y aura des privilèges, surtout associés au sacerdoce, peut-être qu'il y a moins de tentation aujourd'hui d'acheter une ordination. les privilèges y ont sérieusement quand même diminué. Il a fallu lutter contre cette tentation-là et la mainmise du pouvoir civil sur la religion. Et l'autre, le nicolaïsme, c'était un grand débat, presque sur... entre le 4e siècle, même dès le 3e siècle, et sur faut-il des prêtres mariés ou faut-il des prêtres célibataires?
Qui
s'est imposé en Occident quand même avec la réforme grégorienne, parce que c'est elle qui a clos finalement la discussion sur la possibilité d'un clergé marié. Et ce que n'a pas vécu, par exemple, l'Église d'Orient. Mais là, on pourrait développer aussi pourquoi...
Alors, ce sera le thème d'une autre émission.
Voilà.
Je vais faire un bond de plusieurs siècles et je me tourne vers Étienne. Alors, aujourd'hui, le prêtre, comment on peut le présenter? Et puis, on sent qu'il y a un appel du pape François à limiter le cléricalisme, à regarder peut-être autrement le prêtre. Notre rapport au prêtre doit changer. Peut-être le prêtre par rapport au laïc doit changer. Voilà, quel serait notre juste regard et qu'est-ce qu'on doit changer aujourd'hui dans notre vision du prêtre?
Disons, sans doute qu'on peut dire qu'il y a une sorte de constante anthropologique qui parcourt toute l'histoire et qui nous ramène souvent, fréquemment, vers la figure d'un homme spécialisé, un homme sacré, etc. etc. Et ça, cette tentation-là, elle travaille aussi les chrétiens. Hein. Et donc, je pense que... Quand on parle de cléricalisme, c'est une manière de se représenter le prêtre comme un homme tout à fait à part et qui du coup a une autorité absolument incontestable. Voilà. Je pense que c'est pas fidèle au message du Christ. Dans les premiers siècles, la manière pour désigner les communautés chrétiennes, c'est la fraternité, adelphotes. La fraternité, ça dit qu'il y a personne qui peut, se mettre au-dessus des autres en disant « moi, je vais pouvoir m'adresser, parler à la place des autres » ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors, en même temps, dans les communautés chrétiennes, il y a besoin d'une figure d'altérité qui dise que la communauté chrétienne ne se donne pas Dieu elle-même, mais qu'elle le reçoit d'un autre. Et ça, c'est la fonction du ministre dans l'Église. La fonction de celui qui est signe de la présence et des appels de Dieu pour la communauté chrétienne. Mais ça, ça ne doit jamais devenir, disons, une personne qui se place au-dessus de ses frères. Voilà. Là, on perd vraiment quelque chose de la veine la plus forte qui nous a été apportée par le Christ.
Alors, est-ce que le prêtre doit retrouver une place, du coup, différente dans nos communautés? Voilà, est-ce que les... Comment s'organiser aujourd'hui? Alors, on entend beaucoup les prêtres mariés ou les diacres, voilà, les femmes.
En tout cas, moi, je pense certainement, le prêtre ne doit pas être celui qui décide tout pour toute la communauté. Quand on arrive dans des choses comme ça, je crois qu'on quitte vraiment, disons, cet appel à la fraternité qui est premier pour l'Église. Mais le prêtre, il est celui qui a une attention spécifique, une autorité aussi, mais jamais une sorte de monopole de pouvoir par rapport à toute la communauté chrétienne. Il est quelqu'un qui aide au discernement, qui aide chacun à trouver son chemin vers Dieu. Voilà, mais en tout cas, c'est pas quelqu'un qui est séparé de ses frères.
Eh bien, ce sera la dernière parole de cette émission, et c'est l'appel à la fraternité, peut-être de la figure du prêtre aujourd'hui. Nous parlions du prêtre, et c'est le dossier qui est traité d'ailleurs dans Le Monde de la Bible, que vous retrouverez en kiosque aujourd'hui. Merci à mes invités, le père Étienne Grieux, Benoît de Sagazan et David Hamidovitch. Et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.